Sud Radio, tous au jardin.
Tous au jardin, et je reçois ce matin Alain Delavie. Bonjour Alain.
Bonjour Billy.
Je rappelle Alain que vous êtes directeur de la rédaction des magazines Rustica. On va parler chaleur aussi, hein. Les plantes souffrent, on se dit c'est simple, il y a juste à les arroser. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Alain, on en parle, on donne aussi évidemment la possibilité à tous nos auditeurs de poser leurs questions. 0826 300 300, mais pour l'instant on part avec Gaspard de Vaubicourt. Bonjour Gaspard.
Bonjour Billy, bonjour à tous.
On part du côté de Paris où un événement exceptionnel aura lieu mercredi prochain.
Rendez-vous au 29 rue d'Astor dans le 8e arrondissement où on aura en fait un pré-Mont-Blanc Lab, un événement créatif et collaboratif autour des figures du jardin expérimental en montagne. Un avant-goût donc du Mont-Blanc Lab qui aura lieu du 26 au 29 septembre à l'Observatoire du Mont-Blanc à Chamonix. Un événement qui rassemble plein de participants, des chercheurs, des architectes, des jardiniers, paysagistes et j'en passe, dans l'objectif de créer un jardin participatif.
Et pour votre prochain événement, vous allez nous parler des iris.
Avec d'autres sites et des parcs jardins de la région du centre Val-de-Loire et les pépinières spécialisées à Cailleux et Bourdillon, le domaine de Poulaine propose une collection d'iris mise en valeur dans un écrin de verdure. Les jardins et arboretum de Poulaine ont eu lieu à l'événement jusqu'à fin juin, ont reçu le label national jardin remarquable en 2014. Une raison de plus pour ne pas tarder à y aller. Rendez-vous au domaine des Poulaines dans l'Indre jusqu'au 30 juin prochain.
Merci beaucoup Gaspard de Vaubicourt. Puisque Gaspard parlait d'événements, mon cher Alain Delavie, avant de démarrer et de parler de cette chaleur, comment hydrater, réhydrater la terre, nos plantes, nos fleurs, événement exceptionnel aussi, Place de la République depuis vendredi.
Oui, depuis vendredi, la Place de la République a perdu son aspect minéral, oui. Et elle est couverte de fleurs, couverte de fleurs. Et les Parisiens ont le plaisir de parcourir des mini-champs de bleuets de coquelicots, de chrysanthème à carène, qui est une fleur d'été magnifique, très colorée, avec un labyrinthe. Alors on parcourt, donc bien sûr, ça fait la joie des selfies et autres autoportraits, mais c'est biodiversitaire. Donc biodiversitaire, c'est pour vous alerter et vous initier, pour ceux qui en auraient encore besoin, aux bons gestes pour préserver la biodiversité et puis avoir des attitudes plus écologiques au quotidien.
Et ben voilà, allez jeter un coup d'œil, ça se termine quand c'est ce soir.
Ce soir, oui, voilà.
Ne cueillez pas les fleurs parce qu'elles vont être distribuées.
Oui,
c'est une belle initiative.
Elles vont être distribuées, puis même si vous y allez, vous pouvez rempoter, repartir avec votre petite plante, ce que font d'ailleurs les Parisiens. J'y suis passé hier après-midi sous un soleil magnifique, et c'était un grand plaisir de courir parmi les fleurs.
Rustica est sortie il y a quelques jours. Ça sent l'été, puisque dans ce magazine, on va fabriquer sa déco de jardin. Et l'été, on passe beaucoup plus de temps au jardin. Il y a des recettes et des menus, d'ailleurs. Et puis, à faire soi-même des suspensions jardinières, des palettes végétales et des étagères. Et en plus, quand je dis que ça sent l'été, le Rustica, on le trouve avec 60 jeux pour s'amuser et se cultiver. Il y a tout, hein, des mots fléchés, des quiz, des anagrammes, des énigmes, des photos mystères, le jeu des 7 erreurs avec des fleurs, ça va être magnifique.
Voilà, et puis justement, on nous annonce des heures chaudes, et profitez-en. Alors, au moment des heures chaudes pour vous mettre à jouer à l'abri, bien au chaud, ou frais plutôt.
Oui, j'ai apporté une petite pâquerette dans ce studio.
Belle pâquerette.
Elle est mignonne comme tout. On va parler de nos fleurs, on va parler de nos arbres, on va parler de nos plantations. La canicule arrive, comment on s'en sort? Eux aussi ont besoin de se rafraîchir, mais c'est pas aussi simple que d'arroser le soir.
Non, voilà, parce qu'en fait, on a tendance à se dire il fait très chaud, donc on arrose beaucoup. Il faut savoir que la plupart des plantes, surtout en climat tempéré, les fortes chaleurs, elles font tout pour résister. Mmh. Et la résistance de ces plantes, eh bien, c'est dès qu'il fait 28 degrés, en fait, elles ont ce qu'on appelle des stomates, c'est-à-dire sous les feuilles, on a comme des pores, comme nous on a sur la peau, mais qui leur permet d'échanger les gaz et de transpirer, en fait, on va dire. Mais justement, elles bloquent cette transpiration. Imaginez un arbre avec autant de feuilles, s'il laissait partir toute l'eau.
Ah ben, ce serait de la pluie.
Ça serait de la pluie, et puis surtout, le pauvre, il aurait beaucoup de mal à récupérer autant d'eau au niveau de ses racines.
Donc les plantes, à partir de 28 degrés, bloquent
leur respiration et leur sudation. Mmh. Donc du fait, si on arrose beaucoup, eh bien en fait, elles n'absorbent plus cette eau que l'on donne, et on risque d'avoir une catastrophe, parce qu'en fait, l'eau va rester dans la terre, les racines risquent de pourrir plutôt qu'autre chose. Et en fait, c'est inutile d'apporter autant d'eau en ces périodes de très très forte chaleur. Alors, les bons gestes, eh bien, déjà, on arrose bien sûr jamais pendant les fortes chaleurs. Mmh. Et on pourrait se dire, on arrose tôt le matin. Là, c'est plutôt si on a oublié d'arroser la veille le soir. Moi, je conseillerais plutôt d'arroser le soir, tard. En fait, il faut attendre au minimum 2 heures après le coucher du soleil.
Parce que vous voulez dire que la Terre a beaucoup plus de mal que nous à redescendre en température ?
Oui, en fait, la Terre garde sa chaleur, accumule la chaleur mm-hmm. pendant la journée. En particulier, si vous avez une Terre assez sombre, assez noire, si vous avez, bah, on le voit bien en ville, les endroits goudronnés sont surchauffés et bien après le coucher du soleil. Et en fait, si on arrose avant cette période de 2 heures après le coucher du soleil, eh bien on va d'abord avoir une évaporation de l'eau plutôt qu'une eau qui va rentrer au niveau des racines et dans la terre, dans le sol.
Alors, on a de la chance parce que hier, c'était le jour le plus long.
Oui.
Et bien, ça commence à décliner parce que, allez, le soleil était présent jusqu'à 10 heures, ça veut dire qu'il faut arroser à minuit.
Bah quasiment, bah, ou quasiment, tout du moins à 11 heures. Ouais. Il faut vraiment arroser quand la nuit est tombée. En particulier, bah, ceux qui ont des pelouses, qui est quand même un endroit qui demande beaucoup d'eau, attendez le plus tard possible. Si vous avez un arrosage automatique, réglez-le pour des arrosages pendant la nuit. Parce que comme ça, au petit matin, bah déjà, en plus, l'eau, quand elle s'évapore, alors, c'est pas très bon parce qu'on en perd, mais en même temps, cette évaporation, c'est un phénomène physique. Et en fait, ça provoque un refroidissement ambiant. C'est pour ça que si vous avez des plantes d'intérieur, beaucoup de plantes d'intérieur, eh ben donnez-leur une vaporisation tard le soir, avant de vous coucher. Et comme ça, ça va provoquer un sentiment de fraîcheur. Et d'ailleurs, pour nous,
bien sûr,
vous avez un linge bien trempé, bien humide, vous l'essorez, vous le mettez sur le corps avec un petit ventilateur, pas trop fort, juste pour avoir un petit zéphyr. Et en fait, vous avez une sensation de
fraîcheur
et presque de froid. Mmh. Voilà. Il faut retrouver ça dans le jardin.
Allez, en ligne, au standard de Sud Radio, Marie-Christine qui nous appelle d'Eure-et-Loir. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour, bonjour à vous deux.
Alors,
je viens d'apprendre
écoute.
Des choses passionnantes sur l'arrosage.
Ah oui, mais vous n'avez pas fini, hein, on est là jusqu'à 10 heures.
Oui, moi mon problème c'est le... Alors j'ai beaucoup de fleurs différentes, et j'ai beaucoup de rosiers, et j'ai un rosier, enfin même deux, dans un coin... dans le même coin, des rosiers qui sont particulièrement fragiles et qui ont des taches noires, des feuilles qui se dessèchent, etc. J'arrive à peu près à juguler le problème, mais avec des aspersions de produits divers et variés de façon très 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 fréquente. Et y a-t-il des traitements plus pérennes qui seraient moins de l'esclavage?
Alors Alain, je vous ai vu hocher la tête et avoir un peu de compassion hein, pour les rosiers de Marie-Christine.
Oui, bonjour Marie-Christine. Pourquoi? Parce que les taches noires, la maladie des taches noires, eh bien, oui. C'est une des maladies les plus fréquentes sur les rosiers. Et puis, il faut savoir qu'il y a des rosiers qui sont, des variétés de rosiers qui sont plus sensibles que d'autres. Oh. Et malheureusement, une fois qu'on a une variété sensible, on a du mal à s'en débarrasser. Alors, il y a quand même des bons gestes à faire. La maladie des taches noires, donc comme son nom l'indique, vous voyez apparaître une tache noire avec un petit cercle jaune, plusieurs taches, ça gagne la feuille jaunit, elle finit par tomber. Les feuilles
exactement.
Qui tombent, on les élimine tout de suite, on ne les laisse pas au pied du rosier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des réservoirs à champignons, puisque c'est un champignon qui provoque cette maladie. Et donc, si on les laisse au pied du rosier, ben... un jour ou l'autre, les spores du champignon vont le recontaminer. Après, en fait, alors là, on est en pleine saison. Donc, en fait, quand les taches noires sont apparues, on arrive à les contenir, mais les éradiquer complètement, c'est difficile. En fait, ce qu'il faut faire, c'est au moment où on taille ses rosiers en fin d'hiver et que les jeunes pousses vont commencer à apparaître, eh bien là, on commence à traiter. Pourquoi ? Parce que dès que les bourgeons éclosent, eh bien, en fait, l'éclosion d'un bourgeon, c'est comme une cicatrice pour le rosier. Et c'est à ce moment-là que le champignon repénètre dans la plante et recontamine votre plante. Donc il est bon de traiter, quand vous taillez, juste après la taille, puisque vous avez fait des cicatrices, vous avez blessé votre rosier, vous traitez avec un produit comme la décoction de prêle, qui est un produit assez naturel, mais il y a des produits maintenant biologiques contre les maladies des taches noires. Vous retraitez au débourrement, donc au moment où les bourgeons, les premières feuilles apparaissent, et malheureusement, vous êtes obligé de traiter régulièrement. En plus, cette année, on a eu quand même un printemps assez particulier parce qu'on a eu des gros orages, des grosses pluies. Et en fait, une grosse pluie, ça lessive tous les produits que vous avez mis. Donc, oui, il faut recommencer après. Et puis surtout de la grêle. Et la grêle, ça abîme et ça blesse vos rosiers. Et là, c'est autant de portes d'entrée pour les champignons qui sont toujours présents. Donc, il faut, après un orage de grêle, quand le feuillage est un peu sec, retraiter parce que malheureusement, vous avez eu une nouvelle infestation du champignon.
Puisqu'on parle de chaleur et de soleil, on répète une énième fois, le rosier, il se plante à l'ombre ou au soleil, Alain ?
Alors, toujours en plein soleil, c'est une plante qui adore le soleil, même si c'est un endroit chaud. Et puis après, on va lui maintenir quand même une certaine fraîcheur au pied. Donc ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, si vos rosiers au pied, vous n'avez rien, eh bien, grattez la terre, enlevez les petites mauvaises herbes et mettez un paillis. Alors, vous avez des paillis naturels, si vous avez de la paille, du foin séché. Si vous coupez du gazon, eh bien, mettez-le en couches fines, parce que tant qu'il n'est pas sec, il ne faut pas que ça pourrisse, donc on met des couches fines et ça apportera un peu d'azote à vos rosiers, donc ça va les stimuler. Sinon, si vous avez du compost bien mûr, mettez-le-en au pied. Voilà, tous les paillis, on en trouve. On trouve aussi des paillis de miscanthus, c'est une graminée, des paillis de chanvre, c'est très efficace aussi. Pourquoi ? Parce que ça va maintenir l'humidité dans le sol, juste ce qu'il faut. Ça va empêcher les mauvaises herbes de pousser. Donc, le jardinier va rester cool pendant l'été. Puis, ça maintient la vie plus active dans le sol, au pied de vos rosiers.
Marie-Christine, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais à chaque fois que j'entends Alain de la vie, j'ai l'impression qu'il est grand professeur en médecine de la flore. Non, mais c'est vrai.
Sûrement. En tout cas, je viens de découvrir que je traitais beaucoup trop tard, puisque j'attendais toujours de voir arriver les taches noires pour traiter.
Et malheureusement, c'est un champignon terrible et il vaut mieux le prévenir que le guérir. Et d'une manière générale, en jardinage naturel ou biologique, on prévient plutôt que guérison, qui est toujours difficile après.
Marie-Christine,
merci infiniment. Merci beaucoup.
On vous embrasse. Bon, merci d'avoir appelé Sud Radio. Vous nous appelez de quel endroit en Eure-et-Loire ?
À Favrolles, un petit village charmant, au-dessus de Nogent-le-Roi.
Ouais, c'est formidable. On vous embrasse très fort. Merci d'avoir choisi Sud Radio.
Merci.
Tous au jardin. Au revoir, Marie-Christine. Tous au jardin. On revient dans un instant avec Alain Delavie, qui est directeur de la rédaction des magazines Rustica. Et on reparle de l'arrosage, des chaleurs. Et j'aurai même quelques petits livres à vous conseiller qui sont des hors-série qui seront essentiels pour vous cet été.
Sud Radio, tous au jardin.
Tous au jardin avec ce matin mon invité Alain Delavie, directeur de la rédaction des magazines Rustica. Le nouveau Rustica est paru, bricolage et jeux d'été, un petit carnet aussi pour bien jouer, la déco de jardin, faire soi-même ses suspensions jardinières, ça peut être très joli. Et puis quelques hors-série que je viens de découvrir, Rustica, les essentiels, je crée des potées pour fleurir l'été, même s'il est un peu trop tard pour vous, prenez-le pour l'année prochaine, ça c'est intéressant. Faire son pain, c'est un hors-série. Faire ses pains maison, 60 recettes détaillées à réaliser, ça me plaît, sans machine, pour retrouver le bon goût du pain. Et puis vous, les femmes, vous aussi, les hommes, prenez soin de votre peau. L'été arrive, Rustica pratique avec des recettes 100% naturelles pour faire vos cosmétiques maison. On en revient à l'arrosage. On a entendu les infos. On sait que la chaleur va être présente, mais qu'à partir de jeudi, vendredi, samedi, il y aura cette lourdeur parce que ce sera une chaleur humide. Est-ce que cette humidité qui va nous gêner, nous, humains, pour respirer, qui va faire cranter un peu les cheveux, friser les cheveux, est-ce que c'est bon pour les plantes qu'il y ait cette chaleur mélangée d'humidité ?
Alors, c'est mieux. Oui, c'est pas mauvais pour certaines plantes parce qu'en fait, l'humidité, ça limite un peu la transpiration. Donc, pour elles, ça peut éviter. Parce qu'en fait, il faut savoir, par exemple, les arbres sont capables de faire de l'apoplexie quand on a un gros coup de chaud. C'est-à-dire qu'en fait, l'arbre, c'est une pompe à eau énorme. Donc, le feuillage, au niveau du feuillage, que vous voyez assez énorme, se dégage l'eau qui, par transpiration. Et donc, au niveau de ses racines, il capte de l'eau. Mais il y a un moment où l'évaporation est tellement forte, eh bien, s'il n'a pas bloqué ses stomates, justement, l'aspiration ne suffit plus. Et en fait, il se passe qu'il y a des petites bulles d'air qui apparaissent dans les canaux qui transportent la sève. Et on a des phénomènes d'apoplexie. Donc, d'un seul coup, une branche se dessèche. Et va pas tomber, mais se dessèche. En fait, il réagit, c'est-à-dire qu'il imite la surface de ses feuilles pour... Mais bon, ça peut arriver. Donc ça, c'est les cas les plus catastrophiques. Après, dans le jardin, par exemple, les légumes, les tomates, tout vont avoir besoin de l'humidité ambiante. Alors, quand il y a trop d'humidité ambiante...
Ça peut pourrir.
Il y a des champignons qui adorent ça, justement. Mmh. On a des mildiux, on a des oïdiums. Alors après, surtout quand on a des grandes différences de température, mais c'est jamais trop bon. Il faut quand même... C'est surtout plus difficile pour le jardinier, je trouve.
Bien sûr,
ouais. Pour le jardin va supporter une ambiance très humide, ce qui va être après
très dur. Surtout que c'est quelques jours, hein, c'est pas 6 mois. Donc,
C'est pas 6 mois, mais c'est quand même d'un seul coup beaucoup de température. On était sur des températures agréables d'une vingtaine de degrés. Ils nous annoncent jusqu'à 40. Waouh ! Dans les pots, par exemple, celle-là, les potées, ça va être un peu plus difficile parce que si on oublie d'arroser, justement, qu'on part le matin travailler ou qu'on s'occupe dans la journée et qu'on n'a pas pensé à arroser, ben là, d'un seul coup, ça va complètement sécher. Et le soir, on va voir d'un seul coup tout s'effondrer. Alors, il y a des plantes comme les impatiences. Alors, ça fait peur parce que d'un seul coup, on voit toutes les feuilles qui sont toutes molles, qui tombent.
Mais un peu d'eau.
Et le soir, ce qu'on va faire, c'est que si vraiment on a laissé dessécher le pot, carrément,
on le met dans une bassine, on le trempe.
Dans une bassine, comme ça, on ne perd pas d'eau. On laisse la plante bien récupérer, on la laisse bien s'égoutter. Et puis le lendemain matin, vous allez la retrouver pimpante.
Absolument.
Comme nous.
Comme nous. Allez, au standard, on y retourne. Jean-Michel a appelé Sud Radio, il nous appelle du bassin d'Arcachon. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à vous deux. Bonjour Billy, bonjour Alain.
Bonjour.
Je voulais vous poser une question sur les engrais azotés. Qu'en pensez-vous ?
On n'a pas très bien compris. Les endroits ?
Les engrais azotés.
Ah, les engrais azotés.
Style 3x15, 3x17.
Oui, alors voilà. Les engrais azotés, bonjour. Eh bien, bonjour. Alors, l'azote, qu'est-ce que c'est ? L'azote, donc, c'est un élément chimique que l'on retrouve dans la nature et que l'on retrouve justement dans les engrais. Et à quoi sert l'azote ? L'azote, ça sert à nourrir pour faire pousser les plantes. Croissance, pas pour les faire fleurir ni donner des fruits, mais pour les faire pousser. Donc l'engrais azoté, c'est l'engrais typique que l'on utilise pour les gazons.
Mais il n'y a pas de fruits dans les gazons.
Il n'y a pas de fruits, mais ce qu'on veut, c'est que l'herbe pousse. Donc ceux qui veulent avoir ces superbes moquettes bien vertes, qui ne sont pas du tout écologiques, mais qui sont jolies, eh bien mettre de l'engrais azoté. Le problème de l'engrais azoté, c'est qu'il en faut, mais pas trop. Pourquoi ? Parce qu'une plante qui est trop nourrie avec un engrais azoté va être fragilisée, c'est-à-dire qu'elle va pousser, mais ça va devenir une grande perche et en fait très fragile. Donc par exemple, sur des plantes qui ont eu trop d'engrais azoté, eh bien, qui ont trop poussé, elles sont moins résistantes, les tiges sont moins résistantes. Et au premier coup de vent, là, un gros orage, elles versent, c'est-à-dire qu'elles tombent, elles se cassent, elles sont fragilisées. Sur des plantes qui donnent des fruits ou des fleurs, eh bien, on va avoir du feuillage, mais pas de fleurs. Et moins de fruits. Donc, il faut faire très attention. Et vous parliez d'engrais plutôt complets qui sont très riches en azote, en phosphore et en potassium. Les engrais complets, c'est quand on ne veut pas trop se casser la tête et qu'on se dit « bon, je nourris ma plante et elle va tout avoir d'un seul coup ». Mais ce n'est pas forcément très bon. Et puis, c'est comme tous les engrais, c'est comme nous. On n'a pas besoin d'être gavé d'éléments nutritifs, il faut la bonne dose et juste ce qu'il faut. Donc toujours avec modération. Alors vous avez des engrais organiques qui sont très bien. Il y en a deux, c'est souvent de la corne torréfiée ou broyée. Ça, c'est un engrais qui donne de l'azote, mais sur le long terme. Et moi, je préfère parce que la plante n'a jamais d'un seul coup un coup de fouet ou une grosse dose.
Mais c'est comme si on lui faisait une piqûre d'héroïne, quoi. Allez hop, un coup de fouet.
Un coup de fouet, mais voilà. Si on lui donne une bonne dose, mais pas trop, ça va la stimuler. Mais après, c'est un peu trop. Et puis, on a le sang desséché qu'on utilise beaucoup en jardinage biologique. Et ça, c'est un coup de fouet. Alors, c'est bien quand on veut, par exemple, à la fin de l'hiver et au début du printemps, son gazon a jauni, on lui donne un petit coup de fouet pour qu'il reverdisse. Mais c'est à utiliser avec modération. Moi, dans les potées et en jardinage sur balcon-terrasse, j'en mets un peu au printemps, mais je préfère avec de la corne et je mélange pas trop. L'engrais azoté, donc c'est uniquement pour les plantes qui ont besoin d'une croissance. Les haies, par exemple.
Bah,
les haies.
Ouais,
les haies. Mais une fois par an ou deux fois au grand maximum, mais pas à haute dose.
Voilà, Jean-Michel, vous êtes satisfait de la réponse ?
Il est plutôt préférable donc des engrais organominérales, des engrais complets aussi à dissolution lente.
Oui, oui, voilà, la dissolution lente, c'est toujours mieux que les engrais, je vais dire, rapides, parce que la dissolution lente, la plante se nourrit au fur et à mesure de ses besoins et de sa croissance. Donc elle a une réserve dans le sol, mais que petit à petit, elle va utiliser, et ce n'est pas tout d'un seul coup. D'ailleurs, pour ceux qui utilisent encore des engrais chimiques, on trouve ces petites billes qui sont des engrais longue durée, mais il faut faire attention, parce que quand il fait très chaud, ça provoque une libération plus forte de ces engrais. Donc, on peut avoir un surcroît d'engrais si on a eu la main un peu trop lourde.
Voilà.
Dans tous les cas, quel que soit l'engrais, chimique ou organique, ou organominéral et autres, il faut juste la dose, rien que la dose et pas plus. C'est comme l'arrosage, ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Il vaut mieux laisser petit à petit la plante se nourrir au fur et à mesure de ses besoins.
Voilà Jean-Michel, maintenant c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. On vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir appelé Sud Radio.
Merci.
Au revoir.
Bon dimanche.
On va faire une synthèse, mon cher Alain. La chaleur arrive. Le soir, on arrose de préférence 2 heures. Hein, on l'a bien compris, 1h30, 2 heures après le coucher du soleil. Est-ce qu'on met la même dose d'eau que d'habitude ou on se dit, oh, il a fait chaud, on en met le double ?
Non, ça ne sert à rien d'en mettre le double, parce que de toute façon, la plante, elle a ses besoins. Elle a chaud, mais elle a autant de racines, autant de feuillage. Donc, arroser plutôt régulièrement. Il vaut mieux un bon arrosage, par exemple, une fois par semaine sur les tomates, les dahlias. Vous arrosez bien, vous détrempez bien le sol. Et puis après, vous allez laisser sécher. Si vous avez paillé le sol, l'humidité va rester plus longtemps. Et il ne s'agit pas de... Il fait très chaud, mais vous, encore une fois, au-dessus de 28-30 degrés, les plantes se bloquent. Elles ne vont pas mourir, mais elles se bloquent pour éviter de perdre justement l'eau qu'elles ont dans tout leur feuillage et leur tige.
Un dernier mot pour conclure, ceux qui ont quelques jolies fleurs, quelques pots de fleurs sur leur balcon, un balcon qui va être exposé trop au soleil, on prend un risque si on les rentre à la maison, les fleurs ?
Oui, c'est pas bon parce que ce sont des plantes d'extérieur.
D'accord. Donc on les laisse quand même
et
au soleil.
Et puis en fait, vous allez les déshabituer au soleil.
D'accord.
Donc il vaut mieux les laisser là où elles sont, surtout par exemple un géranium, ça va supporter. Ne pas trop l'arroser, enfin l'arroser juste ce qu'il faut. Et puis, vous allez avoir des fleurs fanées, vous allez les nettoyer, mais ça repartira quand les températures vont
revenir.
Mais on
ne se dit pas, on ne le met pas au soleil, il va attraper une insolation, le pot. Non,
bah,
on le laisse.
S'il y était, non, vous le laissez, c'est comme toutes les plantes d'extérieur. Alors bien sûr, si vous avez des plantes d'ombre qui sont un peu trop ensoleillées, mettez-les plus à l'ombre, comme les hostas, les impatiences, les bégonias, parce que les fortes chaleurs du soleil de midi, ce n'est pas fait pour eux.
Absolument. Dans un instant, place du marché avec Vincent Ferniaud. Alain, une colle facile pour vous, la tomate, c'est un légume ou un fruit ?
Alors, botaniquement, c'est un fruit. Et puis, souvent, on le mange en légumes, mais il y a des grands chefs qui le font en dessert et
absolument,
c'est délicieux.
En tous les cas, c'est la tomate qui va être au centre de cette émission à ne pas manquer. Vincent Ferniaud et toute son équipe, et il y aura de la tomate et encore de la tomate. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Alain Delavie.
Moi aussi, bon dimanche. Et puis, régalez-vous maintenant.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Le Grand Matin Sud Radio.